Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'était au printemps 1984. Noël Simsolo consacrait 3 émissions à Bertrand Tavernier, sous le titre générique de Tavernier sans images. Première émission, l'enfance et les sons. Deuxième, les passions. Troisième, les musiques de films. 3 émissions diffusées au cours d'une même journée, un rendez-vous en 3 fois qui permettait au cinéaste d'évoquer son enfance, ses souvenirs de ville, de famille, de premières séances au cinéma, mais aussi de chansons, de beaucoup de chansons. Le music hall, le théâtre au collège, horrible souvenir, des lectures, des tournages, des discussions. Voici le premier volet de cette série, diffusé pour la première fois sur France Culture le 2 mai 1984.
Alors s'il vous plaît, laissez un message sympa sur ce répondeur, juste après le top sonore, avec vos noms et les raisons de votre appel.
Allô Bertrand Tavernier, c'est pour Tavernier sans images, l'émission de Noël Simsolo assistée de Micheline Arnoux. Bon, alors on va commencer par l'enfance et les sons. Quoi les premiers sons de ton souvenir, enfant ?
C'est le bruit des... Est-ce que c'est le bruit ? Mais c'est... En tout cas, l'image, mais je crois que c'est lié au bruit. Des fusées éclairantes sur Lyon qui devaient marquer l'arrivée des troupes américaines qui entraient dans Lyon. Et mes parents m'avaient fait monter sur la terrasse, je me souviens très très bien, et qu'on voyait... On voyait les fusées éclairantes. Ça. C'est ça, les premiers... Et puis, sans doute le bruit des bombes qui tombaient, qui faisait qu'on allait dans un abri qui était dans le jardin à Montchat. Et là, je devais avoir, je sais pas, mais un an et demi. Hein. Mais j'ai le souvenir de ça très, très, très précisément. C'était très étrange.
Il n'y a pas eu d'autres sons à Lyon dans l'enfance
Si, les tramways, alors très important. Très très important, le son des tramways. Et puis, tous ces sons qui sont liés à des grands, à ces vieux appartements. Les craquements de parquet, des bruits dans un peu dans des pièces un peu lointaines, le bruit de la machine pour faire les bugnes. Comme ça, voilà, ça, des choses qui sont très très liées à la taille et à la grandeur et à l'atmosphère des appartements de Lyon. C'est ça les premiers sons. D'ailleurs, pendant la guerre, tant que la guerre durait, on était à Montchat, on n'avait pas de cour, on était dans une espèce de petit jardin un peu au-dessus de Lyon, une belle maison qui était détruite, que j'avais montrée dans l'horloger de Saint-Paul. C'est là que mon père qui à l'époque dirigeait une revue qui s'appelait Confluence, avait hébergé, avait caché pendant de nombreux mois Aragon. Et c'est là que Aragon a écrit « Il n'y a pas d'amour heureux » dont on possède le manuscrit original.
J'ai écrit un poème qui s'appelle « Il n'y a pas d'amour heureux ». Et les gens ont commencé à me dire « Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Vous, qui, etc. et Elsa, etc. » Ces gens nous prennent pour des imbéciles. Il est bien évident que j'ai écrit en 1943 à Lyon, dans le moment le plus noir de l'occupation, ce poème, et que si j'avais écrit le contraire de ce poème, j'aurais été un salaud, et c'est tout. Mais ça, les gens ne l'entendent pas, ne voient pas. Ils ont oublié ça, c'est-à-dire ça a l'air d'une faute de jeunesse de ma part, quoique j'avais déjà à cette époque dépassé 40 ans, enfin presque 45 ans. Et les gens étaient ravis d'avoir à se mettre sous la dent une chose qui leur en semblait un démenti. Je me contredis, mais je ne me dément pas.
C'est marrant parce qu'après mon père m'a fait rire parce qu'il m'a dit qu'il avait été dans une exposition, l'exposition à la Bibliothèque nationale consacrée à Aragon, et il a vu manuscrit original, il n'y a pas d'amour heureux, c'est-à-dire qu'Aragon avait dû recopier quelques années plus tard et avait filé un faux original, puisque nous on a le moment où il avait été écrit un peu pour ma mère, un peu ce poème.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir désarmés, incertains, et dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et ceux-là, sans savoir, nous regardent passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais c'est notre amour à tous deux.
quand j'avais rencontré tardivement, de nombreuses années plus tard, j'avais rencontré Aragon et Elsa Triolès, c'est moi qui les avais fait venir à une projection de Pierrot le Fou. J'avais eu l'idée d'amener Aragon, de lui faire voir Pierrot le Fou, ce qui a donné ce célèbre article tant de fois cité dans les lettres françaises. Et il s'était précipité vers moi. Oh, on avait joué avec vous quand vous étiez tout petit, etc. Et tout. C'était formidable. Voilà.
Par ton père, tu as rencontré enfant beaucoup d'écrivains.
Oui, j'ai rencontré un certain nombre d'écrivains, moins que j'aurais pu le faire. D'abord parce que le grand moment où mon père voyait beaucoup, beaucoup d'écrivains et s'assurait de leur collaboration pour cette revue, qui est resté, je pense, très important. Je suis tombé sur des gens en Pologne, dans le monde entier, qui m'en parlent de Confluence, notamment, et notamment d'un numéro célèbre qui s'appelait Problème du roman, qui avait vu des tas de signatures prestigieuses de Giraudoux à Prévost et tout. Et là, j'étais trop jeune pour rencontrer tous ces gens. C'est plus tard, et puis après, j'ai été pensionnaire quand on était à Paris. Mais j'ai tout à fait le souvenir de gens comme Roger Nimier, notamment, qui m'avait, à un moment, à une ou deux reprises, aidé à essayer de faire mes dissertations. Il est venu me donner un coup de main. Et puis, j'aimais bien Nimier. C'était un type qui me séduisait beaucoup. Et d'ailleurs, dans le film Ascenseur pour l'échafaud, le personnage s'appelle Tavernier. Mon père, et la première phrase, c'est Tavernier toujours en retard, d'ailleurs. C'était ce qu'il avait fait, je pense, tout à fait à bon escient.
Mais dans cette enfance, il y avait aussi des musiques qui arrivaient.
Il y a du piano, il y avait ma grand-mère, oui, qui jouait du piano. Elle en jouait avec elle se réunissait, ça, je l'ai jamais entendu avec des amis, dont ma marraine et d'autres personnes. Mais je l'ai entendu jouer toute seule, certains morceaux, et m'expliquer certains morceaux de Bach ou de Mozart ou de Chopin. Et oui, ça c'est aussi très lié à des souvenirs d'enfance. Et quand j'avais été un tout petit peu plus âgé, je lui avais amené les partitions pour piano de Duke Ellington. Mais elle, on ne peut pas dire qu'elle jouait ça avec beaucoup de swing, elle était très étrangère, ce genre de musique. Mais en même temps, il y a deux, trois mélodies dont elle avait compris la délicatesse. Et bon, c'était assez marrant.
Tu m'as dit aussi qu'elle traduisait ta grand-mère.
Oui, elle a traduit énormément de livres de Moravia. Et certains parmi les plus célèbres, comme La Ciociara ou Nouvelle Romaine, j'adorais. Et elle avait pris, parce que comme à Lyon, Étant donné les mœurs de la bourgeoisie lyonnaise, les livres de Moravia paraissaient relativement osés, enfin certains, comme L'ennui paraissait osé. Elle avait pris un pseudonyme pour traduire, pour ne pas se faire reprocher ça par des gens. Elle signait Claude Poncet, de son nom de jeune fille. Et parce que sinon, de savoir qu'elle traduisait de certains livres, lui aurait certainement fermé quelques portes. Et elle avait reçu le prix Alperine Kaminski. Maintenant, il ne faut pas me demander qui est Alperine Kaminski, mais elle avait reçu le prix Alperine Kaminski pour l'ensemble des traductions. Elle avait traduit Moravia, Piovene, un certain nombre d'auteurs italiens tout à fait importants, et collaboré au dictionnaire des auteurs. Et également avec mon père, quand mon père travaillait à Confluence, elle l'avait aidé plusieurs fois. Je crois que c'est dans Confluence qu'est paru pour la première fois un chapitre de « Pour qui sonne le glas ?». quand j'ai commencé moi-même à me fabriquer ma collection de musique petit à petit, que je me suis ouvert pratiquement tout seul, un peu tout seul à la musique. Parce que les seules musiques qu'il y avait, c'était, j'avais un souvenir très fort, bon, c'était ce qu'on entendait à la radio qui jouait un très très grand rôle, et qui était différente selon que j'étais à Lyon, que j'étais en vacances dans le Midi. Dans le Midi, c'était avec des amis un peu de mon âge et tout, on était des passionnés, on écoutait Radio Monte Carlo avec toutes les émissions, etc., qui étaient... dont certaines sont restées pour moi légendaires. La radio était là avec André Bourillon, ça c'était formidable. Le reportage, c'était un principe, c'était offert par les cafés Maurice, je me souviens. Et c'était un principe tout à fait extraordinaire. C'était de transmettre un événement historique exactement comme si c'était du même ton, avec le même ton et la même passion, le même style que si c'était un événement sportif. Alors il y avait par exemple le camp du Drap d'Or. Alors ce soir c'était entre 19h et 19h25. Je me rappelle. Et le camp du Drap d'Or, il y avait et je vois à ma gauche François Ier. Qui c'est qui rentre? C'est François Ier à gauche qui rentre accompagné de et à la droite il y a Henri VIII. Et alors il y avait toute la bataille de Poitiers aussi. J'avais entendu toute la bataille de Poitiers. Comme ça c'était absolument formidable. Bataille de Poitiers avec et je m'approche de Jean le Bon. Je m'approche de Jean le Bon. Il est en train et là il vient de faire tomber un ennemi. Et je m'approche. Il va parler. Que va-t-il dire? Non, c'est son fils qui va parler. Il va parler. Père prend garde à droite, père prend garde. On entendait un comédien qui disait ça, on entendait cling, cling, des bruits terribles de ferraille. Alors, il y avait ce type d'émission que j'écoutais toujours, et que j'écoutais très souvent chez moi. Alors ensuite, en revenant à Paris, j'écoutais ça, j'écoutais le fameux Martini Club, ou alors sur... avec Martini, le monde entier chante et sourit.
Pas trop de publicité.
Bon. Et puis, bon, c'est l'histoire, c'est pas de la publicité, là. Et puis, comment ça s'appelait à l'époque il y a le poste parisien, il y avait les Maîtres du Mystère, hein. Ça, c'est un grand classique. Les Maîtres du Mystère avec la chronique cinématographique de Roger et Jean. Hein. Et puis, j'avais quelques émissions fétiches comme ça, et j'avais notamment il y en avait deux qui étaient mes grandes émissions. Il y avait bon Signé Furax que j'ai suivi pendant des années. Je me ruais en venant de l'école pour arriver à écouter les aventures de Black and White et de la Marane Polycat et de l'ignoble Clacmuf. Hein. Et de qui la mise en onde? Mais de Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, bien sûr.
Hein. C'est là-dedans qu'il y a une réplique inoubliable devant une voiture, monte ou je te descends.
Mais il y en a, il y a 10 000 répliques inoubliables. La vie est un ticket dans lequel la mort fait des trous. Enfin, il y a un certain nombre de répliques absurdes. Il y avait le cruciverbiste Léopold Glockenspiel, dont le rêve était de rencontrer Max Favalelli. Hein, c'était absolument formidable. Puis tout ce qui est sur les babus, la chanson des babus, tout le monde y pue, il sent la charogne, il n'y a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne. Non, ça c'est bon. Ça, il y a ça. Et puis, l'autre grand classique de mon enfance, c'était Grégoire et Amédée, dont j'ai appris beaucoup plus tard que Grégoire, c'était Roland Dubillard. Et les sketchs qui passaient entre 7h et 7h05, qui mettaient généralement la plupart des gens dans une colère absolument inouïe, je les adorais. Ils commençaient toujours de la même façon, c'était Grégoire et Amédée présente, Grégoire et Amédée dans Grégoire et Amédée. Ça commençait toujours comme ça. Et c'est finalement un grand nombre de ces sketchs, j'ai découvert ça encore beaucoup plus tard, ont servi à Dubillard de base, même, je crois pas seulement de base, même ils ont été repris souvent dans la totalité, dans les dialogues. C'était les dialogues.
Grégoire
et Amédée.
Présent.
Grégoire
et Amédée.
Dans
Grégoire
et Amédée.
Ah, 20h, c'est l'heure.
Déjà 20h comme le temps passe, 19h était si proche, il me semble que c'était hier. Ah, taxi?
Taxi! À quel endroit demain?
Oh, je sais pas, à moins que vous ne teniez au cadre.
Non, 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 le principal c'est que on se retrouve, n'est-ce pas? Taxi?
Taxi? Donnez-nous rendez-vous si vous voulez bien comme aujourd'hui, c'est-à-dire n'importe où.
Bon, hein? Bien, bien. Le même n'importe où qu'aujourd'hui, ou bien...
Oh, celui-là ou un autre, s'en fiche après tout. Hein. Oui, oui. Ce qui compte dans un rendez-vous, ce sont les personnes qui se rencontrent. Le reste...
Ah oui, mais l'heure est importante aussi, puisqu'elle change tout le temps.
Oui,
est-ce que je peux vous proposer, par exemple, 20 heures précises?
Ben d'accord. Demain, nous, 20 heures précises, exactement, n'importe où. Hein? Taxi?
Taxi.
Taxi.
Oui, je dis 20 heures parce que c'est une heure que je ne risque pas d'oublier, puisque un jour, je me souviens, c'est à 20 heures que j'ai eu 20 ans.
La ferme, alors. Moi non plus, je ne risque pas d'oublier, j'ai un chrono, Grégoire et Amédée, qui ne marche qu'entre 20h et 20h07. Alors, vous voyez. Taxi?
Taxi.
Sans ça, moi, c'est à 15h30 qu'un jour j'ai eu 15 ans et demi.
Tiens.
Oh, pour ça, je vous parle de ça il y a si longtemps que nous n'existions pas. Hein. Taxi?
Taxi.
Taxi.
Oui. On a beau crier taxi, c'est comme de crier au voleur, ça les ferait plutôt fuir.
Oh, plutôt. Ah, toi, si tu continues, je vais te donner une boulette.
Vous souffrez de l'estomac?
Non, pas en ce moment. Pourquoi?
Non, je dis ça parce que votre estomac fait une espèce de bruit comme s'il aboyait. Aou, aou, aou. Alors, je pensais que c'était douloureux.
Ah, non, c'est pas mon estomac. Non, c'est un chien.
Ah.
Oui. D'ailleurs, j'ai jamais entendu dire qu'un chien qui aboie soit douloureux, vous savez. Mmh. Vous voyez cette petite tête qui dépasse de mon par-dessus? Il n'a pas l'air douloureux du
tout. Non, non.
Il est vrai que la nature est si difficile à interpréter.
Taxi! En tout cas, il n'est pas beau.
Bah.
C'est un cabot, pas beau.
Ça, je reconnais que pour concevoir quelque chose d'aussi laid et d'aussi petit en même temps, il y a vraiment que le bon Dieu. Bon Dieu de bon Dieu, quand va-t-il venir ce taxi? Non, mais quand? 20h03?
Regardez. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le rendez-vous de demain,
ouais.
Ne changeons rien, mais disons toujours n'importe où,
oui.
Mais n'importe où dans un taxi.
Bon, hein? D'accord. Bon. Et j'irai même jusqu'à suggérer un taxi en marche.
Oh bah.
Hein? Je vous le dis un endroit parce que je connais un endroit où il y a des taxis en marche.
De quel côté?
Du côté de chez Georges.
Oui.
Non
mais dites-moi, vous changez de chien comme de taxi? Bah, hier c'était un bric-à-brac, avant-hier un fox mauviette. Moi j'en passe, c'est des plus gros. Mais vous possédez une ménagerie?
Ah non, c'est mon gagne-pain, ça. Ah. Pendant tout le temps qu'ils ont arrêté Grégoire et Amédée, j'étais promeneur de chiens.
Non.
75 francs le quart d'heure, 75 francs. Pour les petits chiens. C'est 50 francs pour les gros. C'est pourquoi je suis pressé, parce qu'il devrait être rentré chez sa mère. Toi, tu as de la veine d'être mon dernier chien, sans quoi.
Non, mais dites-moi, 75 francs pour les petits et 50 pour les gros,
c'est quoi? Oui,
un compte,
oui. Ah oui, non, mais les gros sont moins fatigants, vous savez. Ils déforment pas les poches de par-dessus aussi. Mmh. Et puis je ne me casse pas la tête, je leur monte carrément sur le dos, comme sur un chameau.
Couché dans le froid, avec le soleil pour témoin. Couché dans le foin, avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait les aveux et des grands sermons et des vœux. On a des bras, des plats, les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Ah, que la vue est douce, douce. Couché dans le foin, avec le soleil pour témoin. Il ne faut pas que je vous cache que j'ai toujours la sainte horreur des vaches. Dans ma famille, c'est un tort. Hélas, le métier de toréador n'a jamais été notre fort. J'aimerais mieux qu'on m'injurie, qu'on me pend ou qu'on m'expatrie, plutôt que de toucher un pis de ma vie. Je suis ainsi, tant pis, et c'est dommage. La fille de la fermière est charmante et on a le même âge. Par bonheur pour les amoureux, il est au grand air d'autres jeux, des jeux que j'aime davantage, que j'aime davantage. couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Un petit oiseau qui chante au loin, on se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des bras, des plats, les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. À cœur la vue est douce, douce. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Seul pour témoin.
Je n'écoutais pas seulement les aventures de Jeff Candy, le crack qui croque. Et qui marche au sucre. J'écoutais plein, il y a plein de chansons. J'avais une grande culture musicale. Alors, ça allait de Patrice et Mario, que même j'ai été voir chanter, au Radio Circus avec Zappy Max. Donc j'ai entendu Patrice et Mario chanter Couché dans le foin, parce que ça. Les sœurs Étienne, Jacqueline François, hein, qui, ça. Ça allait là à bien sûr. Traînait, Patachou, les débuts de Béco, hein, les débuts de Béco, et puis des chanteuses comme René Lebas, Lucienne Delisle, accompagnées par Aimé Barilli.
Tu m'as menti et trompé plus que personne. Je te pardonne, je te pardonne. Mais ce soir où notre repas se déchire, je vais te dire lequel est ton vrai nom. Judas, tout comme Judas. Tu as vécu près de moi en cachant au fond de toi la trahison et la haine. Baiser, baiser de Judas. Ta lèvre redonne un frisson dissimulant le poison, poison dont ton âme est pleine. À l'instant même où tu m'as dit je t'aime, je pense à celles qui t'ont cru et qui ne t'ont jamais revu. Et je comprends que tu me mens. Alors va-t'en et laisse-moi ma peine. Judas, tout comme Judas, tu t'es glissé dans ma vie et le démon a permis que tu brûles dans mes veines. Judas, je pleure de t'aimer quand même, bien que tu m'aies fait souffrir. Quand je te verrai partir, je vais peut-être en mourir. Judas.
Et puis tous ces chanteurs, il y avait des masses de chanteurs qui étaient toujours accompagnés Judas, soit par Pierce Pierce et sa harpe, vous savez, ou par Jerry Mango. Moi, c'est très lié. Ces noms sont vraiment liés aux variétés de toute une époque. Jerry Mango et Pierce Pierce. Et d'ailleurs, Sard avait mis Pierce Pierce comme pianiste quand on avait fait la chanson des Enfants gâtés avec Marielle et Rochefort. Alors c'est un tout petit peu plus tard, il y a eu Eddie Constantine, dont j'ai été un grand fan. J'ai même été le voir à l'Olympia. Là, on avait vraiment... Eddie, il y avait plein de chansons que j'adorais. Un de mes grands regrets, c'est de ne plus avoir de disques, justement comme Eddie Constantine à l'Olympia, c'est 25 cm qui sont perdus. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Il chantait Old Man River, Constantine, ou alors, c'était formidable, ou alors, Allez Femmes, ça me démange, c'est dans votre dévoué Black, chantait Sam de...
Gardez les pieds sur terre, c'est pas facile à faire. Moi, les coups durs, je leur tends la main parce que ça me démange. Sans évaluer mes chances, je rentre dans la danse. Et coups de pied, de tête et de poing parce que ça me démange. Une voix, chaque fois, me crie du fond de mon âme. Mon garçon, attention. Pour un jupon ne va pas bêtement faire un faux pas. Mais la raison me quitte lorsque l'amour m'invite. Et l'aventure est dans mon destin parce que ça me démange. À quoi bon me bercer d'illusions, prendre de folles résolutions, un regard. Et ça part quand l'aventure appelle. Je sens pousser mes ailes. Et quelquefois je casse du bois parce que ça me démange. Je ne tiens pas en place et fonce tête basse. Je suis comme ça et je ne vois pas de raison que ça change. Et qu'un jour je me range, puisque ça me démange.
Nous sommes les comédiens. C'est pas très rigolo quand on sort du boulot. Rien ne nous rattache à rien. Aimes-tu ce que j'aimais quand tu applaudissais? Assis dans votre fauteuil, vous avez l'air blasé. Y a pas contact, avez-vous déclaré? C'était à cause du chien qui court dans la travée. Si le B67, la dame du deuxième rang, avait laissé son kleps dans son appartement, peut-être auriez-vous ri. J'y voulais tant d'esprit. Voilà comment ça se passe dans notre fichu métier. Théâtre, métro, hall de gare, c'est bien la même fournée. À vous voir au guichet, on dirait une corvée. Pour être ce que tu dois être, il te faut 40 ans, nous disent tous nos vieux maîtres. Vous n'êtes pas content, nous en 2h30, on vous fait vivre une vie. Et ces petites émotions, vous pouvez les renouveler 7 soirs par semaine en venant voir jouer la poignée d'imbéciles qui crèvent de ce métier. Aussi la prochaine fois, madame au deuxième rang, laissez votre chien chez vous et vous le monsieur là-bas, allez donc vous coucher. Vous entend ronfler. Je termine là mon histoire, car il faut faire une fin. Et dans le fond, nos déboires se résument à presque rien. Ça s'appelle PAIN, ça se prononce quotidien. Et c'est joué quand même, car ce métier, on l'aime bien.
Oui, oui, oui. Le premier disque, je l'ai passé des tas de fois, Stéphane Goldman. Et il y avait plusieurs chansons que je trouvais très très bien, comme notamment les comédiens, et puis Actualité, que je trouvais une très très belle chanson, dont les paroles, je crois, étaient d'Albert Vidali. Hein. Et vraiment, je trouvais que c'était très 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 beau. Et ça, c'est un disque, je dois toujours l'avoir, ce disque, il me semble. Et Jacques Douai, Stéphane Goldman et Jacques Douai, notamment une chanson qui était écrite par la femme d'Henri Janson, qui s'appelait Phil LaLaine, que je trouvais très, 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 très belle. Je trouvais que Douaine était moins heureux quand il chantait Ferré ou certaines chansons comme ça, un peu modernes, mais dans des vieilles chansons comme Je m'en file, enfin, ou une sorte de pastiche, comme Phil LaLaine ou comme Pauvre Rue de Boeuf, je trouve que c'était très, très beau ce qu'il faisait.
Dans la chanson de nos pères, Monsieur de Malbrook est mort. Si c'était un pauvre air, on n'en dirait rien encore. Mais la dame à sa fenêtre, pleurant sur son triste sort, dans 1000 ans, 2000 peut-être, se désolera encore. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Et nains au ruban de soie, chanson bleue des troubadours, regret des festins de joie aux fleurs du joli tambour. Dans la grande cheminée s'éteint le feu du bonheur, car la dame abandonnée ne retrouvera son cœur. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, la page à l'éternel retour. Croisez des grandes batailles, sachez volant se manier, ajustez cottes de mailles, armures et boucliers. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles, on attend sans se lasser. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour.
Comment doit-on manger les huîtres crues?
Certaines personnes les avalent sans les mâcher. Que ne les prennent-elles en cachet? Voici le procédé des amateurs qui estiment que la bonne huître mérite d'être aimée pour elle-même. Faites ouvrir seulement au moment de les manger des huîtres appartenant aux espèces préférées, grasses, charnues, et assurez-vous pour chacune qu'elle est bien vivante, en explorant ses réflexes. C'est là un signe objectif qui ne trompe pas. Puis, enlevez-la délicatement de sa coquille. Portez-la immédiatement à la bouche, toute crue, sans aucun accompagnement. Et aussitôt, d'un coup de dent, percez-lui le foie. Si le sujet répond à ce que vous êtes en droit d'attendre de lui, vos gencives doivent baigner dedans tout entière et votre bouche doit être inondée de jus. C'est là un véritable critérium a posteriori de l'huître à point. Restez un instant dans cette situation, puis avalez lentement le jus et achevez la mastication et la déglutition du mollusque. Tonifiez-vous alors avec une gorgée de bon vin blanc sec. Mangez une bouchée de pain blanc ou noir, beurré ou non, pour neutraliser les papilles de la langue et être en état d'apprécier intégralement l'huître suivante.
Est-ce que tu étais déjà gourmand ?
Je ne sais pas. Quand j'étais petit, je ne pense pas tellement. Parce que j'étais très malade.
Parce que maintenant, tu es gourmand.
Horriblement. Horriblement. Mais horriblement, tout en acceptant complètement de pouvoir me passer de ça à certains moments. C'est-à-dire, quand je tourne, par exemple, la mentalité, quelquefois, la mentalité française qui... Quand on tourne à l'étranger, qui est de râler sans arrêt, ouais, on a marre de ça, où est-ce que c'est le beefsteak pommes frites? Et là, ça me rend fou. Ça me rend fou, les types qui peuvent pas accepter une autre nourriture que leur nourriture quotidienne. Qu'ils ont, ça.
Gourmand, mais pas chauvin.
Ah, je suis pas du tout chauvin. Là, de ce côté-là, pas du tout. Et je peux tout à fait rester au sandwich pendant... Enfin, je dis ça, mais je... Est-ce vraiment vrai? C'est-à-dire, quand j'étais dans le repérage dans le Canada, dans le Manitoba, dans l'Ouest canadien, là, gastronomiquement, j'ai beaucoup souffert. Parce que, culinairement, c'est à peu près à 1500 miles en dessous des pires endroits américains que j'ai connus. Ce qui n'est pas peu dire.
C'est même plus le fast-food.
Oh, s'il y avait un fast-food, on serait très 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 content. Hein. On serait heureux. Qui n'a pas mangé... au Blue Buffalo de je ne sais trop quoi, de Spring Creek dans le Saskatchewan, ne sait pas ce que c'est qu'un rôti ignoblement cuit, enfin ce qu'ils appelaient le roast beef, sous une sauce brunâtre, qui est une des grandes abominations de ma vie. Et ça, vraiment, on comprend pourquoi il y a peu de gens qui habitent dans ce coin-là. Je crois que c'est une des... Pourquoi le Canada n'a pas été plus colonisé, ça c'est très très clair, là.
Et de rose de blanc avec quoi pour venir au ah, ça va ah,
Que prendrez-vous, monsieur? Ça, je n'en sais rien, mon vieux. Depuis hier, j'ai dû le voir la gueule de bois. Alors, monsieur, prenez un cocktail nouveauté. Ça se voit la bouche fermée en se serrant le nez. Et le barman ajoute à souriant en secouant ses gobelets d'argent.
De se dire dans les portons, sans les coquilles, ça c'est nouveau.
De se dire dans du partout, ça met en vrille les discotos, ça vous dilate la rate, vous fait gonfler le chétier, ça vous remboue les genoux, oh qu'est-ce que ça fout.
De se dire dans du partout,
c'est le cocktail boum pour les dingos. Ce qui fait la différence de mon cocktail avec les autres cocktails, voyez-vous, monsieur, c'est que je n'emploie pas de ces ingrédients difficiles à digérer, tels que le gin, le whisky, le bœuf mironton ou l'alcool à brûler. Non, monsieur, mon idée que je qualifierais de géniale et même de génitale, comme disait Madame de Montespan au baptême de la Cépède, eh bien, c'est le coup des œufs durs. C'est à rien, mais il fallait le trouver. Comme le disait si justement Christophe Colomb, en se tapant le derrière dans du verre pilé pour se décongestionner les cordes vocales. D'ailleurs, jugez-en. C'était un grand combat, sans chic et sans couva. Je vous jure que ça gantait, c'est tout ce qu'il se donnait. Les oreilles en chou-fleur, on vit un des boxeurs se répandre sur le tapis complètement en croquis. Aussitôt le soigneur cria, j'ai un truc mon pote, tu l'auras.
De se dire dans du porto, sans les coquilles, ça c'est nouveau.
C'est nouveau.
De se dire dans du porto, ça met en vrille les biscottos.
Hey, remontons le stock, ton froc, je vais t'essuyer le nez. Vas-y, petit gars, tu l'as, fais vite à valsa.
De se dire dans les portos, pour un pré-coq, boum, c'est du chouetteau.
La rate vous fait gonfler le gestier, ça vous rend mou les genoux, oh qu'est-ce que ça fout.
deux œufs dans du partout. C'est le cocktail, boum, des ton nouveau.
Donc j'étais très malade quand j'avais une primo-infection, j'allais au sana, j'ai été au sana longtemps. Donc j'étais, puis on m'a mis en pension justement, au bon air comme on dit. Donc j'étais pas gourmand. De toute façon on peut pas être très très gourmand quand on est pensionnaire pendant 6 ans, hein, parce que, ou alors il faut se suicider, parce que quand même la cuisine là-bas c'était pas le Pérou. Hein.
Et tu lisais beaucoup au sana?
Beaucoup, beaucoup. Au sana, oui. Au sana, j'ai déjà découvert les signes de piste. Et puis après, j'ai continué là-dessus. Bon, je ne parle pas de...
La bande dessinée, quand même.
Oui, des... Comment ça s'appelait? C'était en Cocardie et dans Vaillant. Il y avait Éric Leloup, non?
Yves Leloup.
Oh, c'était bien, ça. Et puis, il y avait... une bande dessinée qui m'avait assez frappé.
Dans Vaillant, il y avait aussi Les Pionniers de l'Espérance.
Oui, ça c'était, très très bien, Les Pionniers de l'Espérance. Mais une bande dessinée, est-ce que c'était en Cocardie? C'était Les Mousquetaires du Maquis.
Oui, c'était en Cocardie, de Marie-Jacques.
Ah oui. C'était très 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 très... Alors là, c'était très... je crois que si je le relisais maintenant, je serais absolument stupéfait. Ça devait être très franchouillard, non? Les Allemands s'appelaient tout le temps les Fridolins, je me rappelais. Ah oui. Les frères. Oui, je lisais des bandes dessinées, puis j'ai découvert, je parle pas de Jules Verne, qui a été un des grands, grands chocs, surtout que ma grand-mère en avait des très, très beaux dans les éditions Hetzel, qui malheureusement, tout ça a disparu, donc elle a tout fait disparaître. C'était un petit peu dommage. Et j'avais une grande, grande passion pour... je restais dans ses livres, L'île mystérieuse ou Hector Servada, que je m'en fais. Mais... Bon, bah, des choses comme pratiquement, je crois, tous les enfants de mon âge, les signes de piste. Le premier, c'était La Longue Piste, qui doit être d'ailleurs le numéro 1. Le numéro 1 de la collection, qui m'avait plu. Et puis ensuite, ça a été surtout celui qui m'a le plus plu, c'est Le Relais de la Chance au Roi de Jean-Louis Foncine. Ah, ça. Et j'étais tout à fait étranger aux connotations politiques et homosexuelles qui, paraît-il, existaient très très fort dans les livres de Serge Dalins, notamment Le Prince Éric, le Bracelet de Vermeil, La Tache de Vin et La Mort d'Éric. Et c'est en les lisant récemment, et encore je crois que c'est dans des éditions, c'est un peu expurgé, on s'aperçoit en effet qu'ils vont au congrès de Nuremberg. Tous ces scouts vont un moment au congrès de Nuremberg écouter Adolf Hitler.
Mais tu m'avais dit aussi que tu avais lu Captain W. Jones.
Ça j'en avais à une époque, je vais en avoir une centaine de ça. Les aventures de Beagles. Et tous les autres héros du Captain W.E. Jones, tout. Je les avais tous aussi. Il y avait Warhols, il y avait King, qui ne s'appelle pas King d'ailleurs, qui s'appelait comment King? C'était le capitaine machin chose dit King. Et puis, voilà. Et il y a même un livre, je crois, il y en a un ou deux, où Beagles, Warhols et King se retrouvent à ce moment où ils se croisent. Il y a Beagles qui arrive et qui vient en sauver un. Et Beagles n'a pas d'âge, hein, parce qu'il est aussi bien un gars de 14 qu'un gars de 40, que dans des choses comme ça. Oui, moi j'adore.
Ah, c'est Ginger d'ailleurs.
Ginger et Blue White. Algernon Lassé dit Algie. Et Laure Bertilici dit Bertie, qui avait un monocle toujours. Ça, j'adore. Il y avait le début d'un livre qui se passait à Monaco qui s'appelait Beagles portée manquant. Et qui disait l'horloge égrena 10 secondes et les rejeta dans le passé.
Sous-moi donc calmement cette troupe s'avance qui porte sur le front une malassurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Sur l'air du train, la la la, sur l'air du train, la la la, sur l'air du train, des rues des rois et de la la.
Alors, raconte.
Vas-y, Rodrigue.
cette obscure clarté qui tombe les étoiles, soudain avec le flux nous fait voir 30 voiles. Nous leur sautons dessus pendant 3 heures de rang, et le combat cesse à faute de combat. Sur rien n'est pas là, sur rien n'est pas là. Peste soit des interrupteurs. Et... tra-la-la. Ah. Voilà.
Mais le théâtre, c'est à quelle époque que tu l'as découvert?
Le théâtre, c'est d'abord le théâtre forcé un peu au collège. Hein, le dimanche, quand t'es collé, un machin comme ça, t'as une compagnie théâtrale avec des, sans doute maintenant, je réalise, des kamikazes, une bande d'acteurs kamikazes, hein, qui venaient vous jouer le miracle de l'enfant bavard ou le Cid, avec des trucs terribles qui, pour une bande de galopios absolument, on n'est polarisé que sur ce genre de détails. Par exemple, Don Diego qui n'arrive pas à retirer son épée du fourreau. Toi, le fourreau qui se bloque au moment où il le sort. Avec la compagnie Jean de Nynx qui venait... bon, ça c'est le théâtre de l'adolescence. Terrible. Terrible souvenir. On passait tantôt d'une pièce, tantôt des films. Là, et ou tantôt une conférence avec la famille Mahusier. Hein, qui est aussi un de mes plaies de mon enfance. La famille Mahusier qui vient de raconter sa vie avec les gorilles. Et on a l'impression que c'était une famille aussi grande que la famille Trapp. Il y en avait des dizaines de Mahusier. Hein. Ils en sortaient de partout, arrivaient avec leurs films en Nouvelle-Guinée, machin et tout. Terrible. Ça, c'était ma grande... l'espèce de cauchemar de mon enfance, ça a été le retour des Mahusier. Et le théâtre après, le vrai théâtre, ça a été quand même... et j'étais relativement jeune là, ça a été le choc de Villars. Villars m'a tout d'un coup m'a ouvert sur tout à fait autre chose et m'a, je peux dire qu'il m'a donné la passion et le goût d'aller au théâtre et en même temps qu'il m'a fait découvrir le sens profond de certaines œuvres qui restaient pour moi purement scolaires, purement des œuvres qu'on avait analysées à l'école et je trouve que à l'école on vous donne pas tellement le goût des œuvres, malheureusement, et que Villars, en tous les cas, moi, il m'a complètement donné une passion pour à la fois pour certains auteurs, puis pour l'approche et l'analyse de certaines œuvres. Cher Marivaux, moi, je l'ai complètement tout d'un coup compris avec ça.
Thank you.
mais c'est en, je crois, en seconde ou en première que j'ai vraiment eu un grand choc, d'abord en lisant des extraits de Hugo, petit à petit, qui m'a donné envie de me plonger non seulement dans... En fait, les poèmes de Victor Hugo, je les avais découverts, je crois, quand j'avais 4 ans, puisque je connaissais par cœur. C'est là où j'ai appris à lire, c'est en lisant La Retraite de Russie, hein, dont j'ai quelques vers. Je crois que c'est là, on était, il neigeait, on était vaincu par sa conquête, pour la première fois l'aigle baissait la tête. Ça, c'était très très beau. Et il y avait, on s'endormait 1000, on se réveillait 100. Après une plaine blanche, une autre plaine blanche. Mais bon, ça, j'ai adoré ça. Et donc, j'avais, disons, un préjugé, je pense, favorable pour Victor Hugo. Et peut-être parce que les professeurs étaient toujours un peu réticents vis-à-vis de Hugo. Ouais. Un peu toujours. Ça m'a toujours... dès qu'un prof était réticent sur un auteur, j'avais envie de prendre le contre-pied. D'aller l'examiner, de voir si c'était vrai ce qu'il disait. Je me suis senti... c'est la fameuse phrase de Julien Binda qui dit... avec les hommes de droite, je me sens à gauche, et avec les hommes de gauche, je me sens à droite. Et donc, il suffisait qu'un type dise quelque chose pour que j'aie envie d'aller essayer de voir le contraire.
Mais est-ce qu'il y avait aussi des cours d'histoire de la musique ? Ou de chant ?
Non. Il y avait des cours de musique. Et moi, j'ai passé mon temps à amener du jazz au professeur de musique classique qui était quand même très énervé par ça. Mais ça, c'est plus tard, c'est Henri IV. Au collège, j'avais pas de cours de musique. Et le collège, j'en ai pas gardé. J'en ai pas gardé. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas gardé.
Il n'y avait pas de chorale, il n'y avait pas de choses comme ça.
Non. J'ai gardé un souvenir. C'est plus un trait que j'ai envie de tirer là-dessus. Je m'étais fait un très très bon ami qui est mort très très jeune de leucémie. C'est peut-être à cause de ça que j'ai envie d'un peu d'oublier cette période, parce que c'est un type que j'aimais énormément, qui était un type très bien humainement, qui s'appelait Marchandise, Dominique Marchandise. Et lui et sa famille, c'était des gens absolument formidables, qui ont été vraiment marqués par le destin de manière assez atroce. Et le reste, à part le fait que j'ai eu un bon prof de français, très bon prof de français, M. Boulet, et qu'il y a un certain nombre d'auteurs, que j'ai vraiment découvert, que j'ai apprécié, que j'ai commencé. Là, j'ai pas gardé de toutes ces années un vrai souvenir, parce que c'est trop lié à des sentiments d'humiliation, à une atmosphère très très, et à tout un côté quand même très très bizarre. Le collège est très fait sur l'oppression, sur l'humiliation. Il y a plein de choses qui viennent du collège qui sont ressorties après dans Coup de torchon. Je crois que je me suis vengé un peu dans Coup de torchon de mes années de collège, d'une certaine manière. Notamment le sadisme des profs de gym, qui était une horreur. Une horreur.
C'était Tavernier sans images, l'enfance et les sons par Noël Simsolo, réalisation Micheline Arnoux. Premier volet d'une série de trois, diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 mai 1984. Prochaine émission, Tavernier sans images, les passions. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.